Il nous reste juste encore à partager, peut-être une exhortation pour les baptisés, un mot, une adresse pour eux, parce que un jour comme celui-ci, c'est un jour important pour eux. Peut-être de partir aussi avec un mot d'ordre, une exhortation serait une bonne chose pour eux. Ça peut nous servir, nous aussi. Parce que ça peut être l'occasion pour nous aussi de réfléchir à notre propre situation. Alors, je voudrais partager cette exhortation. Je ne serai pas, j'espère, long. Peut-être en reprenant un certain nombre de textes que peut-être nous avons lus. Je ne sais pas si on a déjà lu ce texte-là. Mais j'aimerais partir de ce texte ici pour donner mon exhortation aux baptisés, mais quelque part à nous autres aussi. Jean chapitre 14, du verset 1 au verset 6, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez, vous aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. J'aimerais peut-être m'arrêter juste sur ce dernier verset 6. Dans la situation où se trouvaient les apôtres, les disciples de Jésus à l'époque, c'est une situation dramatique. Ils voient que leur leader leur annonce qu'il va mourir, qu'on va l'assassiner en quelque sorte, qu'il va souffrir. Ils savent que la question la plus simple qui se pose par la suite, c'est « Ok, tu t'en vas, et nous, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on va être ?» Et c'est comme ça que Jésus encourage. Il dit « Il y a plus que ce que vous voyez. Il y a tout un projet que Dieu a mis en route. Ce projet existe. C'est pas parce que je m'en vais, c'est pas parce que je vais mourir à la croix, c'est pas parce que je vais partir au ciel que tout s'arrête. Quelque chose continue. Il y a un projet. Ce projet est entre les mains de vous. D'abord les disciples et aujourd'hui de nous autres, les croyants, et de vous aujourd'hui. Et mon souhait, c'est que peut-être qu'on puisse, pour vous en tout cas, et pour nous, réfléchir un peu sur cette réalité de faire de Jésus le chemin, la vérité et la vie dans ma vie. Que Jésus devienne le chemin, devienne la vérité, devienne la vie dans ma vie. Tout d'abord, félicitations. C'est un bel aboutissement. Il faut être très courageux pour aller jusqu'au bout. Beaucoup y pensent, mais tout de suite après, rangé dans les tiroirs, on oublie ça. Il fallait avoir le courage de s'y lancer et surtout d'arriver au bout de la manœuvre. Et vous voyez, vous êtes témoin avec moi que comme personne n'a été noyé, donc vous pouvez aussi, vous aussi, vous présenter aussi et souhaiter de vous faire aussi baptiser. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est une personne incontournable pour atteindre Dieu. C'est ce qu'il dit, nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas une autre possibilité, il n'y a pas un autre accès à Dieu que par Jésus-Christ. Deux secondes de réflexion. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous avons l'habitude de dire « tout chemin mène à Rome ». On a l'habitude de dire que toutes les voies mènent à Dieu, quelque part. Aujourd'hui, nous avons des conceptions selon lesquelles, pour avoir Dieu, il suffit d'aller dans son cœur. Quand tu regardes au-dedans de toi, Dieu est là. Mais ce texte nous dit non, pas du tout. Un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Il faut donc rencontrer Jésus. Et vous avez vu le texte que Jean-Paul a mis, où dans l'entretien avec ce grand docteur en théologie qui s'appelle Nicodème, il lui dit, il faut qu'on naisse de nouveau. La rencontre avec Jésus se fait par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est le choix que je fais dans ma vie de laisser Jésus diriger mon existence, devenir le maître de ma vie. C'est ça, la nouvelle naissance. À ce moment-là, Dieu vient s'installer, commence une nouvelle aventure en moi, une transformation intérieure. C'est ce que Quentin a dit. De l'homme, du garçon totalement opposé à Dieu, même fâché avec Dieu, il est devenu son adorateur. Et lui-même, il rigole de lui-même en se disant, waouh, comment ai-je été aussi sot pour m'opposer à Dieu à ce point-là? Une transformation intérieure. Mon souhait, en tout cas, ma prière pour Quentin, pour Anne-Déborah, mon souhait, ma prière, c'est que Jésus devienne réellement le chemin de votre vie, réellement la vérité de votre vie, réellement votre vie. Pas simplement la vie, mais votre vie. Alors, laissez-moi donc peut-être juste parcourir quelques mots sur l'illustration de ce que je vois comme chemin pour votre vie, comme vérité pour votre vie, comme vie de votre vie. C'est juste ça le cœur de mon message. Je ne vais pas essayer de trop m'éterniser. D'abord, en ce qui concerne le chemin. Quand on pense à un chemin, on pense à un point de départ et à un point d'arrivée. On pense aussi à un but. Je ne suis pas sur le chemin par hasard. Je ne traîne pas sur un chemin. Si je suis sur un chemin, ça veut dire que je suis en route vers quelque part avec un projet, avec un but. Oui, je sais. Je sais qu'il y a des gens qui traînent. Hein? Il y a le langage qui dit, qu'est-ce que tu fais là? Je traîne. Il y a des jeunes gens qui traînent à la gare. Ils n'ont pas où aller, ils restent à la gare, ils regardent un peu les choses qui se passent à la gare. Ils aiment ça. Mais si la police passe dans le coin, elle va leur dire, oh, circulez, il n'y a rien à voir ici. Hop. Mais quand on prend son chemin, c'est qu'on a un but, on a un objectif. C'est vrai que sur le chemin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parfois aussi, sur le chemin, il y a plusieurs chemins qui se présentent à nous. Il y a des chemins qui sont là pour nous égarer complètement. Combien parmi nous savent que il y a moyen de s'égarer sur le chemin? Une des choses qui me fait peur, quand je dois aller dans la forêt, là, vous voyez, quand on va dans le bois, une des choses qui me fait toujours peur, c'est de ne pas retrouver mon chemin après. Croyez-moi, ça m'est déjà arrivé au bois des rêves. Voilà. C'était toute une autre histoire. Ne pas retrouver son chemin, c'est angoissant. Ça fait peur. Parce qu'on se dit, punaise, qu'est-ce que je vais devenir? Dans notre vie quotidienne, en lisant la Bible, il y a deux chemins. Je vous propose la lecture que Jésus, de parole de Jésus dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Dans la vie, il y a deux chemins. Le chemin bateau, le chemin paquebot, le chemin boulevard, le chemin autoroute, et chou, tout le monde y va. Vous avez déjà vu un carambolage? Eh bien, un carambolage, généralement, quand l'autre là a oublié de freiner, ou qu'il a eu un problème, En général, le temps qu'ils freinent, bing, 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 bing. Il y en a 40, il y en a 50, et voilà. Tout le monde va dans le même sens, tout le monde fonce. On ne réfléchit pas. Sur une route large, tu ne réfléchis pas. Il suffit juste de regarder comment fait l'autre. Tu limites, c'est tout. Tout le monde gagne de l'argent dans une société, n'est-ce pas? Tout le monde travaille. Eh ben oui, tout le monde achète des voitures. Ben, pourquoi pas j'en achèterais une? Tout le monde achète des maisons. Ben, pourquoi je n'achèterais pas une maison, moi? Tout le monde se marie. Pourquoi je ne me marierais pas? Et vous, les jeunes, tout le monde a une copine. Pourquoi j'en aurais pas? C'est le chemin bateau. Nous tous, on y va. Je veux être comme l'autre. Je veux être comme l'autre. Je veux ressembler aussi à tous les autres. Parce que, excusez-moi, je suis un mouton. Oh, pardon. Je suis simplement quelqu'un qui suit les autres. Et ça fait style. Ça fait genre. Et puis, il y a le deuxième chemin. Là, il y a moins de gens. C'est un chemin plus étroit. C'est un sentier. Vous savez, un sentier, ce n'est pas un chemin bateau. Hein. C'est un tout petit chemin où je passe souvent tout seul. Et quand il y a quelqu'un qui vient dans l'autre sens, il faut vraiment qu'on se serre pour se laisser passer le chemin. On est obligé d'être poli. Bonjour, hein. Bonjour. Sur le chemin bateau, qu'est-ce que je m'en fous de celui qui est à 100 mètres de moi? Qu'est-ce que je m'en fous de lui dire bonjour? Mais sur le chemin étroit, je dois quand même lui dire bonjour parce que c'est quand même pas poli de ne pas lui dire bonjour. Deux chemins, deux façons d'avancer dans la vie, deux façons de regarder la vie. Suivre la vague sans réfléchir, sans objectif, sans système de valeurs, sans filtre, sans principe. Où aller en gardant résolument le cap, en sachant d'où l'on vient et où l'on va, et en ne perdant pas sur le chemin le but de notre cheminement. Mais si nous devons faire cette démarche-là, nous avons accédé à une porte, et le texte nous dit: il y a une porte qui est étroite. Cette porte s'appelle Jésus. Si nous voulons accéder à cette route étroite, il n'y a que Jésus. C'est lui notre chemin, notre vie. C'est lui notre objectif. C'est vers lui que nous allons. C'est lui qui est sur cette route. C'est pour lui que nous sommes sur cette route. C'est pour lui que nous sommes en chemin. C'est lui qui va orienter notre vie, qui va donner la direction à suivre dans notre vie. Alors, vous savez très bien qu'aujourd'hui, pour réussir à atteindre son objectif sur le chemin, il nous faut un GPS. Dans le temps, je me demande comment les gens faisaient avec les cartes, comment ils lisaient les cartes pour arriver à trouver le chemin. Avec le GPS, c'est tellement facile. Bah, bon, sauf certains GPS, hein. René avait un GPS qui était quand même un peu malheureux, hein. Bon, enfin, mais ça c'est parce que voilà. Mais il y a les GPS en général sont très intéressants parce que ils vous disent comment vous en sortir. Et même quand vous êtes perdu, le GPS vous dit tournez à droite, tournez à gauche. Et je suis même très curieux de voir que certains GPS savent même où se trouvent les sens uniques, les machins comme ça. C'est très intelligent. Et notre GPS à nous c'est quoi? J'entends des murmures. Notre GPS, c'est quoi? C'est Dieu. Notre GPS, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous permet de pouvoir nous orienter. Nous allons regarder ça. Psaume 119, verset 105. Regardez ça. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lumière sur mon sentier. Grâce à la parole, je vois clair. Et je vois ma route, je sais avancer. Je sais voir quelle est la route sous laquelle je dois continuer et quelles sont les routes que je dois éviter de prendre. Alors, ce matin, j'aimerais vous demander de faire de Jésus le chemin de votre vie. Que votre vie tout entière n'ait qu'un but. Je suis né de nouveau, j'ai commencé avec Jésus. Mon but et de mieux le connaître chaque jour et de l'atteindre dans l'éternité, de vivre un jour au ciel avec lui. Ça, c'est le but. Miss, Quentin, il me regarde, toi, tu ne me regardes pas. Je te parle aussi. Le but, c'est ça. C'est que je commence un point, je vais jusqu'au bout. Il y aura des difficultés. Il y aura des combats dans votre vie. Mais que Jésus reste le chemin de votre vie. Reste le chemin, votre objectif. Celui qui vous dit comment avancer. Celui qui vous fait avancer dans la vie. Ensuite, je voudrais aussi que Jésus soit votre vérité, la vérité de votre vie. Mes amis, s'il y a un mot qui n'est pas facile à définir dans la Bible, c'est le mot « vérité ». Parce que si vous la regardez dans le sens grec et vous la regardez dans le sens hébreu, ça n'a rien à voir. Enfin, un peu, mais pas beaucoup. La vérité n'est pas facile. Non seulement toute vérité n'est pas bonne à dire, mais la vérité elle-même n'est pas facile à définir. Lisons un peu cet extrait. Vous allez voir que beaucoup de gens ont des difficultés avec la vérité. Pilate, Jean chapitre 18, verset 33. Pilate entra dans le prétoire et appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répond, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce donc la vérité. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Qu'est-ce donc la vérité? Intellectuellement parlant, on peut dire beaucoup de choses. Il y a des expressions qui disent que la vérité est relative. La vérité se définit en fonction de ma conscience, de mon point de vue. La vérité se définit par rapport à la science. La vérité se définit par rapport à l'autorité. La vérité se définit par rapport au gourou, le chef religieux qui dit « Vous devez penser comme ça et pas autrement. » La vérité, c'est quoi? Ce texte, la Bible nous dit que la vérité, c'est Jésus. C'est donc une personne. Ce n'est pas dans une démonstration. Ce n'est pas dans une théorie, ce n'est pas dans ce que nous avons entendu et appris, mais la vérité, c'est une personne. Et dans la tradition hébraïque, le mot « vérité » s'attache à l'idée d'une réalité que tu as décortiquée. Pas seulement une réalité que tu vois, mais une réalité que tu as réussi, dont tu as réussi à découvrir ce qui est derrière, les tenants et les aboutissants, une compréhension meilleure de la réalité. C'est ça qui est attaché au concept de la vérité. C'est quelque chose que l'on apprend à découvrir avec le temps. La vérité, c'est quelque chose qui nous enlève le masque chaque jour, qui nous fait découvrir de plus en plus la réalité, mais comme elle est vraiment. Pas comme nous voulons qu'elle soit, mais comme elle est vraiment. Il n'y a pas donc de vérité toute faite. Jésus nous indique que la vérité s'apprend dans la relation avec lui. La vérité, donc, ce n'est pas la science. La vérité, c'est Jésus. Avoir Jésus, c'est être dans la vérité. Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous avez vu? La vérité vous affranchira. Mais pour ça, il faut demeurer en Christ. C'est-à-dire s'installer définitivement avec le Christ. Grâce à la vérité aussi, vous êtes devenus libres. Mais pas seulement que libres. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. La vérité ne nous rend pas simplement, seulement, nous ne sommes pas avec la vérité, simplement des gens qui demeurons dans le Seigneur, qui sommes véritablement libres, mais la vérité nous permet aussi d'être saints, c'est-à-dire mis à part, en mesure de pouvoir vivre une relation vivante avec Dieu. La vérité, donc, c'est quelque chose qui doit se porter comme une ceinture. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Vous savez, pour pouvoir marcher, il faut quand même avoir sa ceinture. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Non? Un soldat sans ceinture aura beaucoup de problèmes pour combattre, pour courir et pour combattre. Parce qu'il va devoir tout le temps remettre sa ceinture en place pour se battre. Moi, je ne sais pas comment font tous ces jeunes qui mettent les pantalons sans ceinture. Alors, tu les vois se promener, et puis... Maman, enfin, laisse tomber ton pantalon et promène-toi slip, quoi, c'est plus simple. Mais non, il a un pantalon qui est jusque-là, et alors quand il marche, ça descend, et puis il le remonte. Ça descend, et puis il le remonte. Moi, je me demande, s'il y a un problème avec cette personne-là, il faut courir, il faut faire quelque chose, je sais pas moi, il faut se défendre. Je crois que le gars va ramasser des coups, le temps de remettre son pantalon, il va ramasser des coups, hein, parce que simplement, le pantalon, c'est aussi un peu la nudité quelque part. Avoir sa ceinture pour pouvoir aller de l'avant, pour assurer une marche ferme et assurée. Que Christ soit donc votre vérité, Quentin, Anne, Déborah, soit la vérité qui vous fait marcher. Je vais vous dire une chose. Lorsque Jésus devient la vérité de ma vie, alors je suis vrai. Je suis authentique. Je suis ce que les gens voient que je suis. Je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas à deux visages, à trois visages, à mille visages. Je suis ce que je suis. Et devant Dieu, et devant les hommes. Avec mes faiblesses et mes qualités. Faites de Jésus la vérité de votre vie. Laissez-le décortiquer la réalité de votre vie. Laissez-le vous faire découvrir ce que vous êtes vraiment. Ce qui doit vraiment changer dans vos vies. Et ce qui doit vraiment aller de l'avant dans vos vies. La vie. Dernier point. L'apôtre Paul dit, Christ est ma vie et la mort, mais en gain. Il n'a pas peur de mourir, l'apôtre Paul, parce que pour lui, la vie, c'est important. Et regardez qui est à la base de la vie. Au commencement, Jean chapitre 1, verset 1 à 4, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était quoi? La vie. Et en quoi consiste cette vie-là? La vie était la lumière des hommes. Jésus-Christ est la vie. Vivre, c'est plus que simplement exister. Exister, c'est manger, boire, dormir, voir des copains, acheter des choses, c'est exister. Mais vivre, ça révèle une autre dimension. C'est que je suis en route, en communion, en symbiose totale avec Dieu. Je suis ce que Dieu est en train de faire de moi. Que nous laissions Jésus transformer nos vies. Que nous laissions Jésus devenir la source de notre vie. Et comme dirait un homme que j'apprécie beaucoup, laissons-nous devenir des petits Christ chaque jour. Je vais conclure. La vérité, le chemin, la vérité et la vie. Réfléchissez à ces trois mots et que ces mots motivent votre façon d'être chrétien, motivent votre engagement, motivent votre service chrétien à l'égard des autres. Sachez que sans Christ, sans Jésus au centre de votre vie, comme votre conducteur principal, il n'y aura rien de bon. Amen.